beaucoup de théologiens chrétiens vont considérer que la théologie de la libération est tout à fait conforme à l'enseignement du Christ. Je pense aussi, mais à une certaine vision de l'enseignement du Christ. Or, cette vision de l'enseignement du Christ, c'est telle que moi, dans mon travail de thèse doctorale, j'ai mis en rapport avec la vision des vieilles religions amérindiennes précolombiennes qui vont ressurgir ou qui sont en train de plus en plus de ressurgir depuis à peu près une vingtaine d'années, particulièrement avec la révolution qui a eu au Nicaragua, la révolution sandiniste, a été en quelque sorte le retour, la résurrection d'un vieux dieu précolombien qu'on croyait mort depuis toujours, qu'on appelle Quetzalcoatl, le serpent à plumes mexicain. Or, ce vieux dieu est revenu en quelque sorte hanté du discours des idéologues sandinistes et a ressuscité à travers tout ce phénomène social total qui était la révolution sandiniste.
Révolution et libération, est-ce que les deux vont de pair, absolument toujours associés? Il n'y a pas d'évolution ou de libération sans révolution? Et là, évidemment, là, vous voyez que je pense un peu au Québec aussi.
En fait, dans les quels que soient les systèmes, qu'on a affaire à des systèmes biologiques, ou des systèmes chimiques, ou des systèmes sociaux, ou des systèmes culturels, atomiques même, on se rend compte qu'il peut y avoir des micro-transformations, de petites, quasiment insignifiantes transformations, sans qu'il y ait une révolution, sans qu'il y ait un chaos qui s'installe. Par contre, les véritables transformations, celles qui sont vraiment significatives, s'opèrent toujours à travers des bouleversements, à travers un désordre total qui seul peut engendrer un nouvel ordre.
Un chaos, comme vous disiez.
Oui, un chaos. C'est ça.
Une anarchie.
C'est-à-dire, ça peut paraître pendant quelque temps un moment d'anarchie. Mais ce désordre qu'on remarque que ce soit par exemple la structure dissipative des lieux Prigogine, probablement que vous connaissez. Bon, je le donne comme exemple. La structure dissipative c'est un système biochimique qui va évoluer lentement et qui tout à coup va se transformer brusquement. Et l'ensemble du système va passer d'un niveau de simplicité à un niveau de complexité. C'est un nouveau système en réalité, mais lors du désordre, au moment où le système a gravi vers le désordre, ce désordre-là nous apparaissait à nous comme un désordre. Mais en réalité, c'était un désordre plein d'ordre. Et ce désordre ordonné, qu'on pourrait dire, ça semble paradoxal, mais c'est ainsi que ça se passe, ce désordre ordonné va en quelque sorte créer le nouvel ordre. Et ce désordre-là ne créera pas n'importe quel ordre. Il va créer un ordre qui est spécifique au système en question.
Je vois que votre démarche est très empreinte de science, d'études du comportement humain en comparaison avec la nature. La nature atomique, aussi bien que la nature plus organisée, plus vaste. Est-ce que c'est un peu ça la voie du chamaniste, du chaman?
En fait, oui. On peut dire que le chaman, c'est celui qui est capable de réconcilier les aspects psychologiques et les aspects physiques ou biologiques.
De la nature.
C'est-à-dire, c'est ça, de la culture et de la nature. Alors, le chaman, c'est lui qui peut, en quelque sorte, réajuster. Parce que toute maladie, le chaman, c'est un guérisseur, on le sait, et toute maladie est, en quelque sorte, une distorsion entre nature et culture. Et le chaman, c'est lui qui va venir rétablir l'harmonie entre la nature et la culture, et en rétablissant l'harmonie entre la nature et la culture, en opérant une conversion, finalement, la guérison va s'opérer d'elle-même.
Guérison physique, guérison psychique, psychologique?
En fait, c'est à la fois les deux. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand le chaman, la façon, ou on pourrait dire l'étiologie du chaman, la façon dont le chaman va tirer un diagnostic, il va toujours le faire à partir de l'âme perturbée, ou de l'âme qui est sortie du corps de la personne, ou de l'intrusion d'esprit mauvais dans cette personne-là. Ça peut être un ou l'autre, ou un et l'autre à la fois. Et le rôle du chaman, c'est de partir dans ce fameux voyage chamanistique pour aller chercher cette âme et la ramener dans le corps, et en même temps expulser les mauvais esprits qui ont envahi ce corps-là. Et de ce travail apparemment spirituel, et culturelle, en quelque sorte, va s'opérer la guérison de la nature qui a été, en quelque sorte, bafouée, qui a été brisée. Alors, donc, le chaman opère à la fois une guérison psychologique et une guérison physique. C'est, en fait, le chamanisme, on peut dire que c'est le fondement même de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine psychosomatique.
Ça revient à ça, finalement.
On revient à ça, oui. C'est-à-dire, il y a un retour partiel, disons. Ça mériterait d'être nuancé, mais on pourrait dire que la médecine psychosomatique s'inspire, à son insu, par le seul fait que les médecins qui se sont intéressés aux questions psychosomatiques étaient habités par des archétypes, au sens jungien du terme, étaient habités par les archétypes, et un des archétypes fondamentaux de l'humanité, c'est l'archétype du chaman. Alors donc, ces médecins-là, sans s'en rendre compte, ont en quelque sorte, malgré eux, créé une nouvelle théorie médicale, tout simplement en activant en quelque sorte, toujours à leur insu, toujours inconsciemment, le vieil archétype du chaman.
Le chaman, vous nous dites, il est un guérisseur. Est-ce que c'est sa seule fonction?
Le chaman, bon, écoutez, un chaman, ça existe dans des sociétés qu'on appelle, en anthropologie, des sociétés sans écriture ou des sociétés communément appelées primitives. Mais évidemment, le mot fait frémir les anthropologues. Mais disons, pour les besoins de la cause, qu'on va retenir ce terme-là. Une société primitive est une petite société qui peut être constituée de 20 membres, de 100 membres, 200 membres. Il est très rare que quand on arrive à une société de, par exemple, de 1000, 2000, 3000 membres, qu'on ait affaire à ce qu'on appelle encore une société chamanistique. La société chamanistique, c'est une petite société simple où le chaman, qui joue le rôle de guérisseur, joue en même temps à peu près tous les rôles importants pour le maintien, la régulation, la vie, finalement, de cette société-là. Le chaman est à la fois le guérisseur, il est celui qui réconcilie les gens, c'est le maître de la guerre, c'est celui qui dirige la chasse, c'est celui qui prévoit le temps, c'est celui aussi qui contrôle la température. En fait, le chaman joue tous les rôles sociaux, tous les rôles sociaux sont réunis dans la personne du chaman.
La différence entre ça et le grand sorcier, parce qu'on a tendance à penser que c'est peut-être la même chose, le grand sorcier qui a des pouvoirs et qui est en relation avec le monde invisible.
Bon, écoutez, parfois, dans certaines sociétés, le chaman est en même temps sorcier. Dans d'autres sociétés, il y a un chaman et un sorcier, ou quelques chamans et quelques sorciers qui sont en opposition les uns avec les autres. Or, un chaman peut jouer à la fois un rôle bénéfique pour sa société et tantôt peut jouer un rôle maléfique pour la société ou pour certains membres de la société.
Et là, c'est là que vous diriez qu'il est sorcier.
À ce moment-là, on dirait qu'il joue son rôle de sorcier, effectivement.
Parce que sorcier, c'est mauvais.
C'est-à-dire, c'est celui qui, en quelque sorte, peut rendre les gens malades, peut leur envoyer des mauvais sorts, finalement, qui vont les rendre malades. Tandis que le chaman, c'est celui qui va les guérir. Et je me demande même si parfois, il n'y en a pas des malins qui vont rendre leur monde malade pour pouvoir les guérir ensuite. Ce qui n'est pas impossible, j'imagine. Je ne sais pas si l'anthropologie nous donne des cas à ce sujet-là. Il faudrait examiner ça.
Donc, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique centrale, en imposant avec leurs jésuites là, la religion du Christ qui mourait sanguignolant sur une croix, ils ont eu à affronter, j'imagine, les chamans de la place, qui étaient les grands maîtres de la religion, si j'ai bien compris. Et ce chaman était à la fois diplomate, guérisseur et tout, et c'est eux qui ont été capables d'agencer le corps étranger qui se présentait pour pouvoir l'absorber et ne pas en être malade, ne pas en être affecté.
Bon. Écoutez, le chamanisme existait dans cette région-là, au moment de l'arrivée des Espagnols. Mais je pense, moi, qu'il était plutôt disséminé dans les campagnes, là où il y avait encore des petits groupes qui vivaient d'une façon assez autonome, quoique inféodés à l'Empire aztèque. Quand je dis empire, attention, c'est que les Aztèques n'ont pas, comme les Incas dans les Andes, n'ont pas véritablement fondé d'empire. Il y a eu quelques grandes cités qui étaient des cités à la fois culturelles et guerrières, qui se sont installés un peu partout autour de ce qu'on appelait la vallée de Mexico, autour du grand lac de Mexico qui est sec aujourd'hui, qui n'existe plus. Bon. Et finalement, la ville de Mexico a envahi aujourd'hui tout cet espace-là. À l'arrivée des Espagnols, il y avait, Mexico était une des plus grandes villes au monde, il y avait au-delà de 200 000 habitants qui vivaient dans Mexico même. Alors c'était une cité énorme comparativement à Paris à l'époque, qui n'avait pas une population comme celle-là, pas aussi nombreuse.
Pour la même époque.
Pour la même époque. Alors Mexico était déjà probablement la plus grande ville au monde, comme elle l'est encore actuellement. Alors Mexico, sa tradition d'être la plus grande ville est très vieille. Bon, ce qui arrive, c'est qu'à Mexico, on a affaire à une société extrêmement complexe, stratifiée. Déjà, il y a des hiérarchies qui se sont mises en place. C'est-à-dire, les pouvoirs se sont séparés entre le chef de guerre, l'empereur, finalement, le roi de Mexico, Tenochtitlan, comme il s'appelait la ville à ce moment-là, et les prêtres. Il y a déjà une séparation dualiste, guerrier et prêtre. Et les prêtres vont être de véritables prêtres au sens où on l'entend. Dans une société chamanistique, il n'y a pas d'institution religieuse. L'homme, le chaman, est l'institution en soi. Il est à la fois prêtre, guerrier, chef d'État, il joue tous les rôles, finalement. Encore là, il faudrait nuancer. Là. Tous les rôles du chaman. Alors, quand on arrive au Mexique, là, on a plus, à mon avis, il y a encore des chamans, comme je vous disais, dans la campagne, dans les petites communautés indiennes, mais dans la grande ville même, on a affaire à un système guerrier et sacerdotal, c'est-à-dire guerrier et prêtre.
Jean-Jacques, je fais une parenthèse. Est-ce que l'exemple qu'on prend actuellement là, sur le Mexique, les Aztèques, est-ce que c'est pas transposable à toutes les autres cultures, que ce soit à Rome, que ce soit en Grèce,
C'est exactement à ce à quoi je voulais en arriver. C'est que le chaman, dans une société chamanistique, il est, en quelque sorte, il contrôle tout. Et son pouvoir vient du fait qu'il contrôle précisément toutes les dimensions de cette société-là. Quels sont les dieux?
Quel est vraiment du pouvoir?
Ah oui, il est vraiment...
Il contrôle la température, est-ce qu'il pouvait faire pleuvoir quand on aurait une sécheresse, ou est-ce que...
Moi, je pense que oui, effectivement. Il y a eu des études assez sérieuses qui ont été faites par certains chercheurs mexicains, entre autres un nommé Greenberg, qui a écrit un article assez étonnant sur la question. On les appelle los trabajadores del tiempo, les travailleurs du temps. Ils réussissent, à mon avis, par des rituels religieux qui vont impliquer toute la communauté, ils réussissent à créer, en quelque sorte, des champs magnétiques par la concentration, comme celui qui fait de la télékinésie. Il peut le faire à courte distance, d'une façon un peu plus contrôlable. Eux, ils réussissent par des concentrations, par un exercice rituel, qui est en quelque sorte une concentration collective. Ils peuvent créer des champs magnétiques qui peuvent influencer
la danse de la pluie,
c'est très fonctionnel. C'en est un rituel, et à mon avis, ça marche. Mais s'il y a d'autres collègues religiologues ou anthropologues qui écoutent mon discours, les cheveux vont leur dresser sur la tête. Mais je pense que maintenant, on a suffisamment de témoignages et des moyens pour des dispositifs expérimentaux qui nous permettent maintenant d'évaluer la possibilité de créer des champs magnétiques par la concentration, par pensée.
Vous êtes vous-même allé étudier là-bas sur place au Mexique?
En fait, je n'ai pas été au Mexique comme tel, mais je suis allé à quelques reprises au Nicaragua. Mais le Nicaragua, c'est en quelque sorte peuplé de Nicarao. Et les Nicaraos sont des Indiens toltèques qui vivaient au Mexique lorsque les Aztèques sont arrivés et qui ont migré vers le Nicaragua. Donc, ce sont des Mexicains.
Je me demande si, puis là, je m'en vais sur une piste très délicate, on marche sur des rues, Jésus-Christ, Jésus, est-ce que c'était pas un chaman? Il agissait sur la température, le lac de Tibériade, la tempête. Il crée le calme, il guérit. Le principe du chaman, guérisseur, ben, il était guérisseur. Il était en harmonie avec la nature, il était en harmonie avec ce qu'on peut appeler les dieux de l'invisible, je trouve.
Bon, écoutez, pour ça, je pense qu'il faut faire une distinction entre chaman et prêtre. Alors, je le fais rapidement, puis je réponds à votre question par la suite. C'est un préalable, disons. le chaman est celui qui maîtrise, qui domine les dieux.
Le chaman ordonne à des dieux.
C'est-à-dire, il est le maître des esprits. Il est le maître des dieux.
Et il ne se prend pas pour un dieu pour autant.
C'est-à-dire qu'il se prend pour un chaman, c'est-à-dire un homme capable de commander les dieux, un homme capable de maîtriser les dieux. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour un dieu parce que le dieu lui est inférieur.
Ah.
Et le chaman, donc, il se situe, disons, pour utiliser des images spatiales, tout en haut de la hiérarchie du panthéon, et les dieux se situent entre lui et les hommes. Or, contrairement à ce qu'on pense...
Lui, c'est un homme, pourtant, de nature humaine.
C'est-à-dire, il est un homme et il n'est plus tout à fait un homme. Il est autre chose qu'un homme. Il est déjà perçu comme quelque chose d'étrange par ses semblables, quelque chose de différent. Et lui-même se perçoit comme quelque chose d'étrange et de différent. Il sent bien qu'il a des pouvoirs qui lui permettent de commander les esprits, et il le fait.
Alors, je pense encore à Jésus.
Oui.
Parce que c'est un homme, on dit c'est un dieu fait homme. C'est un homme qui a la nature humaine, mais dont le royaume n'est pas d'ici. C'est un petit peu décroché de la réalité sociale humaine, puis il se prend pour Dieu, puis on dit c'est le fils de Dieu, puis il a la nature divine tout en ayant la nature humaine. Ça me rappelle encore la notion que vous nous transmettez. Jésus est un chaman.
En tout cas, oui, Jésus est d'autant plus effectivement un chaman que lui aussi, il commande à Dieu.
Ben oui.
Quand il dit... Puis même, il invite les apôtres à devenir eux aussi des chamans comme lui. Quand il leur dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est que l'homme, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, est appelé à prendre en main son destin. Donc, l'humanité est appelée à devenir, en quelque sorte, autonome, une humanité capable de gérer son histoire et de gérer son destin. Et ça n'est possible que dans la mesure où cette humanité-là peut lier et délier à sa guise. Autrement, que l'humanité en arrive à être sauvée, donc, et ce qui implique dans le christianisme prendre son destin en main, ça n'aurait pas de sens si l'homme était toujours soumis à une volonté qui lui est supérieure. L'homme devient, ou l'humanité devient cette réalité, cette puissance supérieure elle-même, et il peut dès lors lier, l'humanité peut dès lors lier et délier à sa guise.
Tu disais, frappez et on vous ouvrira.
Frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Alors, ça implique que l'homme s'approprie, en quelque sorte, non seulement le pouvoir de Dieu, mais s'approprie en même temps une puissance telle qu'il se soumet Dieu lui-même. Écoutez, ce que je dis là, ça serait une hérésie totale si des religieux m'entendaient. Après les anthropologues, pourquoi pas, on va les mettre sur la liste aussi.
Oui, je pense, Jean-Jacques, c'est des moments de réflexion importants. Et j'ai hâte de vous ramener sur la piste où vous commencez à nous faire la distinction entre le religieux et le chaman.
Alors, comme je le disais, le chaman, c'est celui qui commande aux esprits.
Oui.
C'est celui qui se soumet les dieux et qui ordonne aux dieux de faire telle et telle guérison. Le prêtre, lui, c'est celui qui invoque.
C'est ça.
Le chaman, vous mettez les mots dans la bouche, le chaman convoque les esprits et les met à son service pour guérir. Le prêtre invoque les esprits et se place comme étant un pauvre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et quand on lui demande qui guérit, est-ce toi ou Dieu qui guérit, le guérisseur dit toujours non, c'est Dieu, moi je ne suis rien dans l'histoire, Dieu guérit, je ne suis que l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Or, c'est la grande différence qu'il y a entre le chamanisme et le prêtre.
Oui,
et c'est pour ça...
Pardon? Elle est énorme, cette différence-là.
Oui, elle est énorme, parce que la guérison qui va venir du prêtre, ou celui qui s'appelle le thaumaturge, comme le frère André, elle est toujours probabilitaire. C'est-à-dire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Tandis que le chaman, il est très rare que sa guérison échoue. Si les conditions, s'il est capable de bien maîtriser toutes les conditions pour la guérison s'opère, à coup sûr. Parce qu'il la provoque, parce qu'il commande aux esprits, parce qu'il agit aussi de façon scientifique, en réalité, scientifique dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire de façon déterministe. Tandis que le thaumaturge, lui, il travaille de façon probabilitaire. C'est-à-dire qu'il peut arriver que la source d'énergie, en quelque sorte, qu'il va convoquer, ou les esprits, ou le Dieu qu'il va convoquer, il est possible que, parfois, ça entraîne une guérison assez spectaculaire. Oui. Mais c'est probabilitaire, parfois ça arrive, les gens, tous les gens qui vont dans les sanctuaires, par exemple, pour se faire guérir, il peut y en avoir un, deux, trois sur mille qui vont guérir. Tandis que quand le chaman va opérer des guérisons qui sont analogues, qui sont bien comparables, il va en guérir 95-99%.
Si lui le veut bien, moi j'imagine qu'on est perdant depuis qu'on a la religion, parce que moi avec le chaman, on avait comme une espèce de garantie à 95% que ça marche, mais j'ai demandé tantôt, est-ce que le chaman ne peut pas aussi devenir méchant, c'est-à-dire les pouvoirs qu'il a pour guérir, est-ce qu'il ne peut pas les utiliser, les inverser pour rendre malade quelqu'un, pour punir quelqu'un qui ne mérite pas, alors à ce moment-là, vous m'avez laissé entendre, non, s'il est méchant, c'est qu'il est sorcier.
C'est-à-dire que, bon, les expressions « bon » et « méchant » me rendent un petit peu mal à l'aise. Je suis pas tout à fait à l'aise avec ça, mais disons que il arrive, je vais parler plutôt de faste et de néfaste, ou de bienfaisant ou de malfaisant. Mm-hmm. Bon, mais disons faste et néfaste. Le chaman peut avoir il peut se confronter à un sorcier. Il peut être en opposition avec un sorcier, et c'est le plus fort des deux qui va l'emporter. Celui qui va être le plus capable de créer des champs magnétiques forts, intenses, qui va l'emporter sur l'autre. Parfois, dans le chaman, résident les deux aspects. Le chaman peut être à la fois guérisseur ou faste, il peut être à la fois aussi, à un autre moment, néfaste.
Okay.
Mais, de façon générale, le chaman, je pense qu'il est animé par une certaine, je dis certaine parce que c'est pas absolu, disons, il est animé par une certaine compassion. C'est un homme qui a le désir de soigner les gens et de voir au contrôle social de son petit groupe.
Il fait passer au-dessus des notions de race, de politique. Je pense à Jésus qui a guéri la fille du centurion romain qui venait le voir, puis il lui a dit, oui, retourne, parfois t'as guéri, parfois il l'a guéri.
Peut-être, oui, mais de façon générale, quand on a affaire à des sociétés chamanistiques, on a affaire à des sociétés relativement, on pourrait dire, autarciques. Des sociétés qui ne sont pas... qui sont assez fermées et qui n'ont pas d'échange comme nos sociétés en ont avec d'autres sociétés. Mais effectivement, il y a par contre des chamans dans certains petits groupes comme ceux-là qui vont devenir célèbres et qui vont accueillir aussi les étrangers. Donc, avec Castaneda, par exemple. Quoique Don Juan est à la fois chaman et sorcier. C'est un personnage qui joue sur les deux plans, qui tantôt va guérir, mais tantôt aussi va... c'est quand, je pense, c'est Anneau de pouvoir ou un des derniers livres de Castaneda où Don Juan, finalement, ordonne une espèce de guerre sans merci entre la Garda et Don Juan et Castaneda et aussi entre les protagonistes, là, les suivis de Don Juan, dont j'oublie les noms. Alors, c'est assez sordide, finalement, tout ce qui va se passer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un des derniers ouvrages de Castaneda. Disons que dans le cas de Don Juan, il y a les deux aspects se côtoient et on est souvent dans le paradoxe avec Don Juan.
Restons sur le pas de Jésus qui serait peut-être un chaman, pourquoi pas. Mais la question maintenant, savoir comment on devient chaman. Parce que la vie de Jésus, elle a été vraiment connue, publicisée à partir du moment où il a commencé à opérer en public, des guérisons justement. Mm-hmm. Mais avant, on ne sait pas. Ça a commencé quoi, à 30 ans sa vie publique?
On parle de 30 ans, mais plus vraisemblablement, le Christ au moment de sa mort, aurait eu entre 40 et 44 ans, je pense. Quand, si on se fie là à certaines études historico-critiques, qu'on appelle en théologie.
Alors, comment on prépare quelqu'un qui deviendra chaman?
C'est une des caractéristiques essentielles du chaman, c'est son itinéraire chamanistique, c'est-à-dire ce qui l'amène à devenir chaman, ce qui l'amène à devenir l'élément intégrateur de l'ensemble de sa société, c'est précisément par le contraire que le chaman va le devenir. C'est-à-dire la première étape qui fait dire aux gens dans une société qu'un tel est appelé peut-être à devenir chaman, la première étape, c'est sa marginalité, c'est-à-dire son rejet venant de la société et son propre rejet vis-à-vis de la société. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu le film Agakuk.
Oui.
Bon, alors, on retrouve dans Agakuk l'essentiel à peu près de l'itinéraire chamanique. Agakuk va poser des gestes, il se distingue déjà. C'est ça, le chaman est toujours quelqu'un qui se distingue. C'est quelqu'un qui a une émotivité très forte ordinairement. C'est quelqu'un qui va réagir très violemment ou très de façon marginale et originale, tout au moins, par rapport à l'ensemble de sa société.
Il est gentil, il n'est pas un tiède.
C'est ça, oui, effectivement.
Il prend des positions radicales. Et, puis,
oui. Et ça va l'amener à la marginalité. C'est-à-dire le chaman...
Il risque d'être exclu.
Il risque d'être exclu et va s'exclure lui-même aussi. Il va faire ce qu'on appelle, il va faire un rite de passage qui va le séparer de sa société. Il va lui-même être malade, il va être même très malade, et il va progressivement, comme c'est le cas d'Agakuk, qui va être blessé, qui va être malade à la suite de son combat avec l'ours blanc. Et on dit, bon, chez certains auteurs, puis même on retrouve ça chez plusieurs, je pense bien, il va se démembrer. C'est-à-dire, dans cet itinéraire, dans sa ségrégation, à la fois volontaire et involontaire de sa société, il va apprendre à se démembrer, c'est-à-dire il va connaître son corps, il va connaître tous les aspects, tous les aspects corporels, physiques de son corps.
Ça rappelé par la Bible dans les 40 jours au désert, où il est censé ne pas avoir mangé, même avoir rencontré les forces des ténèbres, et puis...
C'est ça, je pense que ça symbolise bien la ségrégation, c'est-à-dire le fait que le chaman vive dans la marginalité pendant quelque temps. Ça peut durer, bon, on dit dans le cas du Christ 40 jours, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, de 0 à 40 ans? Il a probablement fait tout un itinéraire, lui aussi, qui s'est en quelque sorte matérialisé, ou dont ces 40 jours au désert ont été la pointe de l'iceberg.
On nous a caché ce temps, cette période, parce que peut-être il n'était justement pas un exemple à donner à tout le monde, puisqu'il se marginalisait
de plus en plus. Je trouve cette remarque-là, je la fais bien. Je n'y avais pas pensé, mais je la trouve tout à fait pertinente.
Oui, tant qu'à parler d'un marginal, on peut si bien faire tout ça. Et quand il est revenu, parce qu'il revient finalement, il va être accepté dans le clan après.
Bon, quand il revient, il faut progressivement qu'il fasse ses preuves, finalement. Il n'est pas reçu, acclamé, comme ça a été le cas du Christ. Quand il est revenu en Galilée, quand il a commencé sa mission, c'est ça,
exactement.
Donc, il a fallu qu'il fasse ses preuves.
C'est ça, faire des guérisons ici et là, prêcher, enseigner des choses.
Et donc, il s'est fait remarquer et il est devenu de plus en plus reconnu par sa société et en même temps rejeté.
Oui, et ceux qui l'ont le plus confronté, c'était les dépositaires de la religion.
Oui. Effectivement.
Parce que le chaman, vous nous l'avez expliqué tantôt, religion et chaman, c'est deux réalités, c'est deux approches, c'est deux, c'est deux voies pour toucher l'invisible et puis entrer en relation avec les dieux. Tu deviens l'esclave des dieux ou tu domines les dieux.
Effectivement.
C'est un dieu, c'est toi qui...
effectivement, c'est que le Christ va présenter une religion de l'immense.
Oui.
C'est Dieu incarné. C'est une religion qui est dans la chair. Le chaman, c'est une religion immanente, puisqu'il porte dans son corps, dans sa chair, la religion de son peuple.
Et d'avoir fait une religion sur le dos de Dieu, de Jésus, c'est de fausser même la nature de Jésus. Il n'était pas là pour fonder une religion. Un chaman, il n'est pas un religieux. Un chaman, il est.
Mais par rapport à ça, moi, j'aurais quelques réserves. Vraiment, c'est tentant d'aller dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Christ, et là, il y a une rupture dans le chamanisme avec le Christ. Jusqu'à maintenant, le chaman était un être d'exception qui régnait sur sa société.
Parce qu'il avait les pouvoirs, il avait pris le temps de développer ses pouvoirs et il les avait manifestés.
Exactement, oui. Alors, le Christ, lui, son rôle va être... dans un premier temps, identique à celui-là. Mais la préoccupation du Christ, c'est de faire de chaque homme un chaman. Et c'est dans ce sens-là qu'il achète l'humanité. Et pour faire de chaque homme un chaman, il faut que ce soit maintenant toute l'humanité qui s'engage dans un cheminement qui va ressembler ou qui peut être analogue à celui du Christ. Le Christ, par sa vie, en quelque sorte, qui dure 44 ans, disons, le Christ, par sa vie, en quelque sorte, donne le prototype ou bien le modèle que l'humanité devra suivre durant toute sa vie. Le Christ, au début, il a été institutionnalisé, il a été baptisé, en tout cas, il a été reçu au temple, il a été, il s'est soumis au règlement ou aux lois, il s'est soumis à la loi hébraïque, et c'est que ça n'est que plus tard que là, il a affirmé une religion de l'immanence, c'est-à-dire une religion de l'intérieur, contre une religion de la transcendance, c'est-à-dire Yahvé qui impose sa loi à l'homme, tandis que le Christ, lui, impose en quelque sorte, ou impose ou propose en quelque sorte l'amour. Mais cet amour-là, c'est un amour immanent, c'est un amour qui surgit de l'homme plutôt qu'imposé par une loi. Alors, il y a une grande différence entre le judaïsme et le christianisme. S'il y a une grande différence, elle réside dans ce jeu d'immanence et de transcendance. Mais le Christ lui donne un modèle à l'humanité, et l'humanité, à travers ce qu'on pourrait appeler son expérience de 2000 ans de christianisme, l'humanité va en quelque sorte franchir ce qu'on pourrait appeler la vie cachée du Christ, qui est une vie intégrée à l'institution. C'est une vie qui est institutionnalisée dans le judaïsme. Alors, nous, l'humanité depuis 2000 ans, l'humanité, l'Occident tout au moins, là, on est en quelque sorte sous le coup toujours d'une religion de la transcendance. Si on n'est pas rendu, c'est-à-dire, on commence avec maintenant certains courants, comme celui du Nouvel Âge, par exemple, qui est annonciateur, à mon avis, d'une incarnation de l'esprit, une incarnation d'un, ce que Teilhard de Chardin appelle, d'un Christ universel dans l'histoire actuelle de l'humanité. Nous allons maintenant, l'humanité, tout au moins l'Occident, va maintenant actualiser pleinement son, on pourrait dire, son chamanisme ou son christianisme. Ça a pris 2000 ans de mortification de la chair pour enfin parvenir à la résurrection de la chair. Et c'est ça le rôle du chaman, c'est de ressusciter la chair. Le chaman convertit l'âme, et la conséquence de la conversion de l'âme, et moi je pense qu'actuellement on est en pleine transformation, il y a un désordre planétaire actuellement qui, à mon avis, ne fait qu'annoncer une résurrection, un nouvel ordre, et après ces 2000 ans de mortification de la chair et de mort, finalement, et actuellement on est dans l'acné, on est dans le paroxysme de la mort, ça ne peut que déboucher sur une résurrection.
Au début, vous nous parliez du chaos.
Oui.
On est au moment du chaos.
Je pense que, en tout cas, il n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je pense que s'il n'arrive pas, s'il ne devient pas évident et opérant, c'est-à-dire efficace, c'est-à-dire le chaos, son rôle, c'est de créer un cosmos. Du chaos, on va au cosmos, oui. Effectivement. Et le désordre, son rôle, c'est de créer de l'ordre.
Un nouvel ordre,
effectivement. Si je suis français, je me défends bien d'être un prophète, mais je pense qu'il y a des conditions, en tout cas actuellement, qui nous amène à penser, qui donne à penser que le chaos peut devenir évident. Et,
chaos plusieurs niveaux, planétaire, écologique, aussi bien qu'économique.
C'est seulement sur le plan écologique, hein, déjà les perspectives nous annoncent que dans, ou les prospectives nous annoncent que dans 50 ans d'ici, la Terre va être devenue quasiment invivable, en tout cas compte tenu de nos possibilités biologiques actuelles.
Oui.
Bon, alors, est-ce qu'on n'est pas sur le point de passer de la mortification de la chair à la résurrection de la chair en passant par un rite de passage planétaire qui serait extrêmement éprouvant, comme l'est le rite de passage du chaman qui va mourir aussi? C'est une des caractéristiques de ce qui fait un chaman, c'est que dans son rite de passage, au moment de sa marginalisation, au moment de son exclusion de la société, son rite de passage se termine par une véritable mort et une résurrection.
Oui, c'est bien, encore comme le Christ?
Exactement, tout à fait.
Mais
comme le Christ.
Une mort, vous voulez dire une mort là, physique, là, il arrête de respirer, là,
on le considère ainsi, c'est-à-dire... Bon, est-ce que si le médecin se mettait en frais d'examiner ses vitaux pour voir s'il est bel et bien vivant, peut-être qu'il le déclarait mort aussi, mais en tout cas, il est, par sa société, perçu comme étant véritablement mort, et il revient des enfers, en quelque sorte, parce qu'au moment de son rite initiatique, il va aller au ciel pour converser, pour dialoguer avec les dieux, pour les connaître et les dominer ensuite, mais il va descendre aussi aux enfers.
J'aime pas l'idée de dominer les dieux, mais peut-être les mettre à son service.
Ben, ça revient par la loi même.
De faire des alliés et dire, écoute, là, je reviens dans la nature humaine, ce puis vous allez nous bénir.
Dans la tradition chamanique, ce ne sont pas des alliés, ce sont vraiment des serviteurs. Il se les met à son service pour guérir les malades, pour aussi l'aider. Ce sont ces intermédiaires qui vont lui permettre de contrôler, d'assurer que cette société-là puisse fonctionner.
Dans l'histoire de Jésus, il y a un élément que j'aimerais vous m'expliquer, parce qu'à date, je dois vous dire, Jean-Jacques Dubois, que tout ce qu'on dit est conforme au portrait qu'on s'est fait de Jésus. Si tout est assez conforme, expliquez-moi donc l'Eucharistie, parce que c'est un rituel extrêmement important dans l'Église, la messe, qui est le repas, où on partage l'hostie en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Est-ce que les chamans font des choses à ce point qui deviennent quelque chose d'autre?
Un des rituels chamaniques, c'est de communier à la chair totémique. C'est-à-dire, dans chaque groupe primitif, que je mets toujours entre guillemets, évidemment, chaque groupe primitif a un esprit principal, un esprit central. Il peut avoir quelques esprits. Et cet esprit-là s'incarne ordinairement souvent dans un animal. Ça peut être un végétal aussi, ça peut être un insecte, ça peut être toute forme de vie, finalement. Ça peut être le soleil, comme chez les Aztèques, par exemple. Ça peut être, un astre. Alors, tout ce qui semble dynamique, tout ce qui semble participer, de l'économie cosmique, peut constituer un totem. Or, le totem, périodiquement, évidemment, c'est un aliment tabou. C'est défendu de le manger. Mais périodiquement, on peut, et non seulement on peut, mais on doit le manger. La transgression du tabou, elle est recommandée et elle est même obligatoire. Et à ce moment-là, le chaman et d'autres personnes aussi, ça peut être les anciens, parfois ça peut être tout le clan aussi, vont communier au totem. Or, en communiant au totem, ils reconstruisent en quelque sorte la solidarité du groupe. Parce que la fête religieuse, ou le service religieux, ou le rituel religieux intervient toujours à des moments bien précis d'un cycle, et ce moment-là, c'est celui de la régénération de la société. Sans ce rituel religieux, la société s'effondrerait. Ce qui permet à une société de perdurer, de survivre l'épreuve du temps et l'usure du temps, c'est qu'à un moment donné, tout s'arrête. Il y a une fête. Ça peut être la fête orgiaque, ça peut être la fête dionysiaque. Ça peut être le repas pascal. Et ça permet de racheter, comme on dirait dans le christianisme, la société. Et en communiant au corps du Christ, en communiant à l'Eucharistie, on communie en quelque sorte à l'essence de la société à laquelle on appartient, c'est-à-dire à l'Occident. Le Christ devient en quelque sorte comme le totem pour le groupe primitif, devient la représentation de son groupe social, c'est-à-dire pour nous c'est l'Occident, et bien plus que représentation, comme pour le totem, c'est pas juste la représentation de la société, c'est aussi la société. Il y a ce qu'on appelle une scintille magique, où l'élément, le symbole, la chose, et l'équivalent, ou non seulement l'équivalent, mais est la société. Il n'y a plus de distinction dans l'esprit des personnes qui vivent dans les sociétés chamanistiques, comme chez les chrétiens, il n'y a plus de distinction entre le symbole et la chose. Le symbole, c'est la chose. Contrairement à tout ce qu'on dit en sciences humaines, le symbole n'est pas la chose, mais représente la chose. Ceci, au niveau de la pensée religieuse, ça n'existe pas. Le symbole, c'est la chose. Et nous, l'Occident, les Occidentaux, quand nous communions, nous, en quelque sorte, nous communions à l'hostie. Quand nous communions à l'hostie, c'est au Christ lui-même, évidemment, qu'on fonctionne aussi selon ce principe
de
magico-religieux.
C'est ça.
Alors, donc, même si le christianisme, on a longtemps combattu la magie subsiste aussi dans le christianisme, et le centre même de la ritualité et de la foi chrétienne, catholique particulièrement, c'est cette magico-religiosité entre le Christ et l'hostie. L'hostie, ça n'est pas ce qui représente le Christ, mais c'est le Christ lui-même, comme la poupée du vaudou, qui, dans le rite vaudou, quand on tue la poupée, celui qui est la poupée, ou la poupée est celui qui est tué là-bas.
C'est pour ça que vous parlez de magie opérationnelle, c'est ça?
Oui, effectivement.
Mais est-ce qu'il y a une question là, de croyance? Si on y croit pas, ça marche pas, ou ne veut pas, ça marche pareil. Autrement dit, celui qui est la poupée, s'il ne sait pas qu'on a fait une poupée de lui en argile puis qu'on va le piquer, il y aura pas mal. Mais ça marche pareil. Bon, autrement dit, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, la religion,
elle est efficace quand même.
La coopérationnelle, c'est pareil.
C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, même si nous, les Occidentaux, les êtres modernes, même post-modernes, même si on se prétend rationnel.
Le rat ou bien non le chat, man. Le chat court après le rat. Hein.
Tiens, c'est pas bête. Oui, parce que le magicien est plutôt du côté de la rationalité, mais ce serait un autre débat, ça. Mais disons que quand on est dans notre univers rationnel, on pense que on est immunisé contre les phénomènes de magie. Alors, moi, j'ai été appelé à soigner des personnes qui avaient des problèmes de santé à sérieux, ici au Québec, qui venaient d'Amérique centrale. Et ces personnes-là sont encore très, même si ces personnes-là se disent modernes, même si ce sont bien souvent des universitaires qui sont tout à fait acculturés à notre culture, c'est-à-dire qui partagent nos valeurs, nos façons d'être, de penser, etc. Je me suis rendu compte dans 3 cas que on ne pouvait guérir ces personnes-là à partir d'une investigation psychosomatique. C'est-à-dire, bon, c'est des maladies que je soupçonnais être d'ordre psychosomatique, elles sont presque toutes d'ailleurs.
Ça veut dire que c'est physique, mais c'est d'une origine psychologique.
Alors, ordinairement, certains de ces problèmes de santé pouvaient se guérir ordinairement par un processus de prise de conscience des causes psychologiques et la maladie s'estompait au fur et à mesure. C'est-à-dire la maladie ne résistait pas à la guérison quand la personne acceptait de reconnaître les causes psychologiques qui la fondaient. Alors, dans quelques cas de santos américains, Il est devenu clair au fur et à mesure de l'investigation des causes de cette maladie-là qu'ils étaient sous le coup d'ensorcellement, de sorciers du Honduras, du Nicaragua particulièrement, de ces deux pays-là. Et la guérison a été possible à partir de cette prise de conscience, évidemment, et d'exorcisme de ceux-là. Alors, ceci ne consistait précisément qu'en ceci. Il s'agissait, parce que le sorcier en question, qui avait été payé, ou les sorciers en question qui avaient été payés par des personnes pour ensorceler, à cause de conflits, de voisins, de parenté, etc. Bon. Alors, c'est ce qui est là, donc, pour rendre malade la personne, ce qu'ils font, sans s'en rendre compte, ils vont créer des champs magnétiques. Mais des champs magnétiques déséquilibrés. C'est-à-dire, dans l'électromagnétisme, on sait qu'il va y avoir un équilibre. Et même le corps même, les molécules d'eau qui sont très sensibles au champ magnétique, vont être saines dans la mesure où le positif et le négatif vont s'équilibrer. Bon. Alors, ce que le chaman fait, ce que le sorcier fait, il crée des champs magnétiques déséquilibrés. C'est-à-dire...
Et il envoie ça vers la personne?
C'est-à-dire, il envahit de ce champ magnétique-là la personne. Ça peut se faire au Honduras, au Québec.
Ça
se fait à distance. Ça traverse la planète entière sans aucune difficulté. Or, quand on fait un travail de guérison d'une personne qui a été ensorcelée et dont le corps devient complètement malade, des processus immunitaires s'effondrent, toutes sortes de douleurs apparaissent, dont les diagnostics de nos médecins ne leur apprennent absolument rien, mais ces gens-là, quand on fait, on pourrait dire, un examen magnétique de ces personnes-là, on se rend compte qu'elles sont véritablement malades. Je me rends compte, moi, que par mon propre magnétisme, par les champs magnétiques que je peux créer, je me rends compte qu'il y a toute une réaction au champ magnétique d'une personne, et ce champ magnétique-là peut varier d'un organe à l'autre, chez la personne malade. Donc, les déséquilibres magnétiques peuvent varier, ils ne sont pas égaux dans le corps de cette personne-là. Donc, toute la personne est énergétiquement déséquilibrée, finalement. Et ce qu'il s'agit de faire pour la guérir, c'est de combattre le sorcier. C'est-à-dire, je me situe parfois dans la situation du chaman, qui doit combattre la mauvaise influence du sorcier, c'est-à-dire créer des champs magnétiques qui sont plus forts que celui que le sorcier a déjà créé, c'est-à-dire pour la rendre malade.
Comment se procéder?
Évidemment, il y a différentes façons de procéder. Le Reiki, par exemple, fait un travail analogue. Le Reiki est celui qui brille les énergies, comme il dit. Effectivement, je pense que ça a du sens.
Attache-toi, dans le champ magnétique est désorganisé, est-ce qu'elle peut pas plonger dans l'eau? On dit que un bain, ça peut aider, un bain avec de l'eau salée, du sel de mer, du sel de pêche. Comment vous avez procédé? Par des passes? Bon. Parce qu'on a vu votre numéro de téléphone, Jean-Jean Dubois, au cours de l'émission, à plusieurs reprises, c'est que vous avez un bureau. Vous donnez des consultations à des gens qui veulent. Maintenant, je pense que vous appréciez la qualité de l'invité que nous avons. Et vous êtes pas ce qu'on pourrait appeler ici au Québec, on n'a pas le droit de le dire en public, un guérisseur. Là. Vous allez avoir le collège de médecins sur le dos demain matin. Mais vous êtes un harmonisateur, si on veut, de champ magnétique.
Disons que des fois, je me plais à m'appeler un psychomagnétiseur. C'est-à-dire que je traite des personnes qui ont des problèmes soit psychiques ou physiques, et j'essaie de les amener. Parfois, ça peut être assez rapide, ça peut se faire en une séance pour régler des problèmes d'arthrite, d'arthrose, d'eczéma, d'ulcère, à peu près toutes les maladies qu'on considère incurables.
Vous avez une technique pour l'eczéma? J'aimerais ça que vous me donniez deux mots sur la technique. Avec la banane?
En fait, c'est pas ma technique. Ça, c'est un guérisseur qui vit dans l'Outaouais qui utilisait cette technique-là. Quand les gens allaient le voir pour des problèmes de peau, que ce soit l'eczéma, le psoriasis ou autre.
Qui sont des maladies psychosomatiques.
Oui, effectivement. Dans le cas de l'eczéma, c'est très clair. Dans le cas du psoriasis aussi, mais le psoriasis correspond à une dynamique psychologique beaucoup plus enracinée, beaucoup plus profonde et beaucoup plus difficile à éradiquer. Alors, je vous dis rapidement le truc de la banane, c'est que le guérisseur en question, quand une personne allait le consulter, lui demandait de manger une banane. La personne de manger la moitié d'une banane et de prendre l'autre moitié de la banane avec la pelure et d'enfouir ça dans le sol.
De l'enterrer.
Et quand la personne guérissait, c'est-à-dire au fur et à mesure que la banane pourrissait, évidemment, la banane se caractérise par sa peau.
Oui.
Et comme la personne avait déjà interagi avec la banane...
Parce
qu'elle avait mangé la moitié.
Pour l'Eucharistie.
L'Eucharistie, elle devenait, effectivement, la banane devenait elle-même. La banane et elle étaient une seule et même entité. Et ce qui arrive à l'un, arrive à l'autre.
Mais la banane pourrit l'autre. Il ne guérit pas, il est en train de pourrir.
Bon, effectivement, mais c'est que le principe qu'on appelle de guérison magique ou de guérison par sympathie magique, sympathie, ça veut dire une chose égale l'autre,
oui.
Puis des choses distinctes. Alors, le principe, c'est que la chose doit mourir. La chose qui meurt va ressusciter dans la personne. Or, les problèmes de peau de la personne peuvent s'amplifier, et ensuite, évidemment, après qu'il y a eu amplification des symptômes, il y a chute des symptômes. C'est-à-dire, après la mort, il y a la résurrection. Il y a toujours, dans les guérisons magiques, il y a toujours ce principe de sympathie. Une chose, c'est la même chose que l'autre chose, et il y a la mort-résurrection. Il y a ce qu'on appelle sympathie entre les éléments, et ensuite, principe de sympathie, c'est-à-dire on donne la vie en donnant la mort.
Évidemment, je pense encore au Christ et sa résurrection et tout ça.
Il donne la vie par sa mort, effectivement.
Oui.
Mais il faut dire ceci aussi dans le cas de ce principe de guérison magique, l'homéopathie va fonctionner sur le même principe, l'acupuncture va fonctionner sur le même principe. Mais dès qu'on connaît le principe, la magie ne fonctionne plus. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de cette recette-là maintenant que les gens qui ont entendu les explications que je viens de donner, ils ne peuvent pas essayer cette recette-là pour se guérir d'un problème d'eczéma.
Ça veut dire qu'ils en connaissent maintenant
la magie. Ils en connaissent le fonctionnement. Alors, donc, ils ne sont pas dupés par les lois de sympathie, c'est-à-dire la chose égale d'autre chose, par les lois d'antipathie, c'est-à-dire la mort donne la résurrection.
Jean-Jean, ça veut laisser entendre que ça explique pourquoi les rationnels vont dire à quelqu'un qui croit à ces affaires-là, c'est toutes des folies, ça, écoute donc, ça, c'est telle affaire, telle affaire, il vide le côté magique, à partir de là, c'est tout opérationnel.
Oui, mais ce qui serait étonnant, c'est que ces personnes-là, avec elles aussi, ça pourrait marcher.
Ah, c'est-à-dire,
même si on dit c'est de la magie, c'est irrationnel, ça n'a pas de bon sens, si on ne comprend pas la mécanique que je viens d'expliquer, comment la peau de la banane va représenter et être la peau de la personne, comment l'un va être l'autre parce que l'une a déjà mangé une partie de l'autre, et comment la mort de l'un va entraîner la résurrection de l'autre, si on ne connaît pas, si on n'est pas capable de décortiquer ces éléments-là, la magie peut jouer. Peut ne pas jouer aussi dans le cas de personnes très rationnelles qui sont barricadées vis-à-vis ce genre de phénomènes mystiques qui se passent à la fois dans la nature et dans leur personne. Jeu de synchronie, comme dirait Yann.
Quand Jésus disait toujours, va ta foi te guérir. Et la foi, c'est un phénomène d'acceptation d'une chose sans essayer de tout décortiquer, tout comprendre, et tout analyser et tout rationaliser. C'est ça, la foi. Et c'est la foi qui fait les miracles, dans le fond.
Effectivement. Dans le cas du Christ, lui, en réalité, il valorisait beaucoup le corps. Toute sa vie s'organise autour de guérison du corps. Mais attention, la guérison n'était que la conséquence de la conversion. Quand il disait « va ta foi te guérir », ça veut dire « tu t'es converti, je t'ai aidé aussi à te convertir, tu es converti, maintenant, évidemment, ton corps va aussi s'assainir. » La guérison n'était que la conséquence de la conversion. C'est pour ça que quand je fais la guérison, moi j'essaye toujours de procéder par l'examen des causes psychologiques et l'exorcisme des démons, en quelque sorte, entre guillemets, qui nous habitent, des démons, c'est-à-dire de nos insécurités, de nos peurs, de nos névroses, de nos problèmes psychologiques. Mais je fais aussi de la guérison. Quand une personne vient me voir, me dit « j'ai tel problème, puis je ne veux pas explorer les causes psychologiques », je leur dis « oui, je peux vous guérir, mais attention, si vous ne réglez pas les causes, le problème peut revenir plus violemment et plus dangereusement. » Alors, j'accepte de le faire, mais tout en ayant la précaution de bien avertir les personnes.
C'est ça. Formidable, hein? Je pense, mesdames, messieurs, qu'on a eu toute une belle rencontre avec Jean-Jacques Bois. Vous avez vu son numéro de téléphone au cours de l'émission. C'est un répondeur puisqu'il est plutôt à l'extérieur de Montréal. Mais vous laissez votre message et il vous rappellera, c'est évident. Hein? Mais Jean-Jacques, il faudra revenir sur l'émission parce qu'on n'a pas fini. J'aimerais parler avec vous une bonne fois des extraterrestres.
Ah, ça, on peut en discuter.
Oui. Merci beaucoup.
Ça me fait beaucoup.
À bientôt. À bientôt.
Tout en restant dans la même veine, la semaine prochaine, nous rencontrons M. Adégrade, kabbaliste juif, pour nous parler de la résurrection du Christ.
Le père des Hébreux, selon un midrash hébraïque, a été jeté dans la fournaise, dans le feu. Il y a une boucle qui est bouclée au moment d'Auschwitz, où tout le peuple d'Abraham, l'un des peuples d'Abraham, qui est le peuple hébreu, a été jeté dans la fournaise d'Auschwitz. Il y a un lien de feu à feu, qui est terrifiant, qui est épouvantable. Si vous comprenez qu'à la lumière de ce feu originel, qui sous-entend qu'avant d'être un homme charnel, l'homme a été un être de feu et qu'il s'en souvient, il sait qu'il est un être de lumière, mais il ne tient pas tellement à le redevenir, il a l'impression qu'il va être privé de tout, on va le priver de fumer, pensez donc, on va le priver de manger du jambon, on va le priver de café noir, ou je ne sais quoi. Alors, c'est gênant, comprenez, on dit, on verra une autre fois. Et on met ça entre parenthèses, et on se ferme des ouvertures qui seraient peut-être plus rapides dans la démarche. Évidemment, il faut choisir.
La résurrection de ce Jacques Chouard, finalement, c'est l'être qui devient l'être de feu, l'homme de feu. Lui, ce sera la réalité.
Voilà. S'il redevient cet être de lumière, qui pour moi est inséparable du mot feu, parce que c'est le même mot en hébreu, c'est que la vocalisation qui varie, s'il redevient cet être de lumière, c'est-à-dire qu'il réintègre la divinité cosmique, mais attention, il ne se fond pas en elle, il y adhère. Il est attaché. L'hébreu emploie le mot « devekut ». La « devekut », c'est l'attachement, l'adhésion, ce qui n'est pas la fusion. Si vous voulez une image qui est peut-être plus simple, chez les musulmans, si vous étudiez bien la tradition soufie, eh bien, vous vous apercevrez que vous avez deux personnages à un moment donné. Vous avez El-Alaj, et vous avez Ibn Arabi. à la lâche dit, je, il emploie le mot je suis Dieu. Ana, haq. Je suis Dieu. Ana, haq. En arabe. Il a été crucifié à la lâche. À la lâche, a été crucifié en l'an 800 et quelques. Bien sûr, l'Occident l'ignore, mais l'Occident ignore tellement de choses. Et Ibn Arabi, qui vient derrière, Ibn Arabi dit ceci, Ana sir al-haq, je suis le secret de Dieu. C'est Ibn Arabi qui a la bonne chose, parce que quand on dit je suis Dieu, la divinité est en vous, la divinité était en Jésus de Nazareth, comme elle est dans tout être humain, mais nous sommes le secret de Dieu. Dieu, c'est la transcendance intégrale, la plus pure, qu'on ne définit pas. D'où ces deux parallèles, et je suis très heureux de faire appel au soufisme, si vous voulez, pour éclairer ma lanterne. J'aime bien prendre mes preuves, si j'ose dire, entre guillemets, chez les autres.